France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien, anthropologue aussi, ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un ou l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe, a choisi d'évoquer Etty Hillesum, jeune femme juive, hollandaise, qui a tenu un journal intime de 1941 à 1943 avant d'être déportée et tuée. Ceux qui ont lu ses pages, lui vouent un culte. Ceux qui ne l'ont pas encore fait ont cette chance aujourd'hui de pouvoir la découvrir et d'être bouleversés à leur tour.
Quand elle venait chez nous, on parlait ensemble, on lisait naturellement Rilke, on lisait naturellement Jung, on se promenait, on s'en allait ensemble. C'était toujours un matin ou un après-midi quand Etty était venue que je laissais toutes les autres choses. On avait tout le temps l'un pour l'autre. Et dans ce groupe, on avait toujours un groupe le dimanche après-midi avec Julius Speer, avec Glasner, avec de Levy, enfin, toutes les personnes qui sont venues de Berlin à Amsterdam et avec Etty et nous. Et ça faisait beaucoup parce que pendant la guerre, on était chez soi ou chez un autre, mais on n'était plus en ville. Peut-être qu'elle a su que sa vie ne durera pas longtemps. Un savoir qu'on a sans savoir. Et que c'est pour ça qu'elle avait écrit tout ce qu'elle voulait nous donner pour écrire, pour placer plus tard, pour mettre dans des livres, pour ça, c'est son testament qu'elle nous a donné.
Bonjour Sophie Galabru.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée, vous êtes philosophe. Vient de paraître votre livre « Nos dernières fois défier la nostalgie », c'est aux éditions Alary, et vous avez choisi d'évoquer la figure, le journal d'Etty Hillesum. On vient d'entendre un témoignage, un des seuls témoignages qu'on a d'elle par une amie à elle, qui s'appelle Anneke Stareveld-Stolt. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce témoignage sur cette figure, Etty Hillesum, qui vous accompagne depuis vos 15 ans?
Oui, ça m'a beaucoup émue d'entendre cette femme qui a été son amie. Je l'ai trouvée très juste aussi parce que elle a raison. Etty Hillesum savait qu'elle allait partir assez jeune. Elle avait ce savoir sans savoir, cette intuition au fond d'elle-même. Et je crois en effet qu'elle a livré peut-être tout. C'est peut-être réducteur de dire ça et peut-être pas. Elle a livré tout ce qu'elle avait à donner. Elle avait une très belle ambition de réflexion, de clarification sur elle, sur les autres, sur le monde. Elle avait des velléités d'écriture, elle rêvait d'écrire un roman. Elle n'a pas pu le faire, mais elle a livré un trésor à travers ce livre, en effet, que j'ai découvert à l'âge de 15 ans et qui ne m'a plus jamais quitté, que je dois relire, je pense, tous les 3 ans. C'était une découverte bouleversante parce que j'avais l'impression presque de l'avoir connue. C'est bizarre de dire ça. D'avoir une proximité avec elle très forte, alors parfois des points de ressemblance dans ses peurs, ses inquiétudes, sa recherche de spiritualité, son besoin d'évoluer psychologiquement, son envie d'écrire, d'aider aussi par l'écriture les autres. Je me sentais très très proche, je regrettais de ne pas la connaître, j'avais l'impression de l'avoir connue, tout se mélangeait, et dans une fascination qui n'a jamais cessé. C'est le plus incroyable, c'est que même 20 ans plus tard, c'est exactement le même sentiment quand je la lis. Rien n'a changé. Non, alors que d'habitude, quand on lit un auteur, quand on a 15, 20 ou 25 ans, à 35, on n'a plus le même regard.
On mesure l'écart même de réception. C'est-à-dire, on se dit, on était jeune, on fantasmait des choses, on se trouve même un peu parfois ridicule.
Oui, on reconnaît sa naïveté, ses espoirs. Et là, pas du tout. Rien n'a bougé parce qu'en fait, quand je l'ai découverte, ça a touché l'entièreté de mon cœur, de mon esprit. Mmh. Et elle-même, elle donne tout. Et donc, quand quelque chose d'aussi total se produit, ça n'est pas un aspect de soi, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une illusion. Je crois que c'est ça.
Alors, il faut quand même présenter Eti Hilsoum pour les auditeurs, auditrices qui ne la connaîtraient pas. Eti Hilsoum, elle est née en 1914. Elle est morte à 29 ans à Auschwitz. Elle est partie volontairement au camp de transit de Westerbork. Elle a été déportée et assassinée à Auschwitz. Et donc, elle est connue pour ce journal qu'elle a écrit entre 41 et 43, qui a été publié uniquement en 1981 aux Pays-Bas, puis traduit après, mais qui a été un énorme succès. Paradoxalement, ce succès n'est pas non plus flagrant en France. On pourrait penser à d'autres journaux, comme celui d'Anne Frank. C'est pas le cas avec celui d'Eti Hilsoum. On en a pas tant parlé que ça. Moi, je vous avoue que c'est vous qui m'avez fait découvrir, Sophie Galabru, ce journal d'Eti Hilsoum. Et puis un autre paradoxe, c'est que dans ce journal, la question du nazisme, la question des camps de concentration ne sont pas l'enjeu premier du texte.
Non, c'est vrai, c'est ce qui la distingue de journaux comme celui d'Hélène Baer ou Anne Frank, c'est que au début, quand on la lit, même pendant deux tiers du journal, elle ne parle pas beaucoup de l'arrière-fond historique.
C'est vraiment un arrière-fond très loin, même très loin.
Oui, c'est un arrière-fond, c'est un arrière-plan, ça existe, elle en parle parfois, elle le subit, il y a parfois, elle l'admet, de la peur, de l'inquiétude, de la douleur, mais ce qui compte, c'est cette évolution psychologique et spirituelle qu'elle va accomplir. Parce que le plus fascinant dans ce journal, le plus beau, c'est qu'on démarre avec une jeune femme un peu dépressive tout de même, anxieuse, très préoccupée par les relations amoureuses, charnelles, par ce qu'elle va devenir, qui se pose des questions sur sa destinée, qui n'est pas très bien dans sa peau. Et puis petit à petit, elle devient une femme libérée, qui se désencombre, qui se débarrasse de tout ce qui la gêne, qui arrive à se clarifier. Tout ça aussi poussé et aidé par un thérapeute important dans sa vie, dont elle va tomber très amoureuse, qui s'appelle Julius Speer. Et pareil, cet amour contrarié au début va se libérer. Elle va s'en émanciper.
Ambigu quand même.
Qui est très ambigu et particulier.
Il est vieux.
Il est plus âgé, il est marié,
voilà,
elle ne peut pas vivre cette relation. Mais cet amour contrarié, elle va réussir à se désaliéner, se libérer des problèmes que ça lui pose, et ça nous aide aussi. Donc en fait, on suit une évolution spirituelle et psychologique, mais parce qu'elle dit souvent, moi ça m'a marqué, elle dit souvent que, en fait, ce qui se passe à l'extérieur, ou le chaos extérieur, est un reflet aussi parfois de son chaos intérieur. Ça peut paraître étrange, mais que on ne peut pas faire évoluer ou avancer le monde ou ce qui se passe au dehors si on ne fait pas une clarification au dedans de soi. Et donc, c'est pour ça qu'elle met un peu en arrière-plan l'histoire. Elle dit, j'ai d'abord à régler mes problèmes, qui sont sans doute des problèmes universels que beaucoup de gens vont rencontrer. Je dois faire du ménage maintenant, ici et tout de suite.
Comment vous expliquez, Sophie Galabru, qu'elle n'ait pas été aussi connue que Anne Frank ou Hélène Baer en France?
Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que
ceux qui l'ont lu, mais sont transcendés par ces pages.
Mais peut-être parce que je crois que c'est ce que je viens de dire. Je crois que c'est parce que comme elle n'a pas mis un accent, son journal n'est pas un journal de témoignage de l'histoire. Pas vraiment. C'est d'abord une évolution, une croissance philosophique et spirituelle, psychologique. Donc peut-être que ça n'a pas été identifié. Souvent, on a besoin de catégoriser, d'identifier. C'est pas simplement le journal d'une captive. Non, c'est pas ça. Donc peut-être que comme c'est même au-delà de toutes les catégories, on n'a pas su l'identifier et s'en emparer.
Sophie Galabru, vous avez travaillé sur la colère, vous avez travaillé sur les liens, sur faire famille, c'était le titre de votre ancien ouvrage, et là vient de paraître ce texte qui s'appelle « Nos dernières fois, défier la nostalgie ». En quoi Eti Hilsoum continue à irriguer votre pensée, vos travaux? Est-ce que c'est une référence explicite ou qui est tellement, comme vous l'avez dit, vous avez ce sentiment presque de la connaître intimement, quelque chose presque d'inconscient, une référence inconsciente?
C'est vrai que je ne l'ai jamais citée alors qu'elle est
jamais,
alors qu'elle est si importante et que je la lis tellement. Et peut-être que je m'en suis tellement imprégnée que je ne pense même plus, ça devient inconscient et je ne pense plus forcément consciemment à elle ou à la mobiliser. Mais c'est vrai que, en fait, en tout cas, comme elle, je cherche ma vitalité et j'exhorte les autres à trouver la sienne, à surmonter. Là où je me suis vraiment reconnue, c'est j'essaye aussi de surmonter mon anxiété, qui est parfois excitée par la lucidité, par la lourdeur aussi parfois. Alors c'est pas la même, hein, la lourdeur de l'histoire, celle que nous vivons aujourd'hui et celle qu'elle a vécue. Mais et j'ai envie de trouver un fil pour aller vers un peu plus de légèreté, sans détourner le regard des épreuves de la vie, de l'inconsolable, du chagrin ou de la douleur, mais essayer de trouver une force, une lumière, comme elle essaye peut-être de le faire dans son journal.
À quel moment vous la reprenez? À quel moment vous dites « là, j'en ai besoin » ?
Je ne sais pas. En fait, son livre est toujours à portée de main et d'œil. Je la vois très souvent, donc je sais qu'elle est là, ça me rassure. Et puis par moments, je peux reprendre le livre et puis retourner vers mes marquages, parce que j'ai beaucoup marqué ce livre. Et j'aime bien, ou alors refeuilleter rapidement et revoir ce que j'ai souligné. Et parfois, ça colle avec un problème du moment ou ce que j'ai besoin d'entendre, un message que je voudrais recevoir. C'est plus, qu'est-ce que tu me dirais qu'est-ce qu'elle pourrait me dire en ce moment dans ma vie que j'ai besoin d'entendre, et donc je pioche un peu au hasard et ça ne manque pas, ça m'aide toujours.
Donc vous ne la voyez pas comme quelqu'un qui pourrait penser comme vous, vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'elle ferait à ma place dans cet état, plutôt comme amie, qu'est-ce qu'elle aurait à me dire ou à écouter de ce que j'ai à dire.
C'est un peu les deux, c'est peut-être quelqu'un que j'aimerais devenir, en fait, quelque part. C'est quelqu'un que j'aimerais devenir, donc c'est sa force, j'aimerais la trouver. Elle a une force extraordinaire parce que, comme vous l'avez dit, elle va avoir une sorte de petit privilège. Elle va faire partie d'un conseil juif de sa localité et elle va donc être
un privilège tout petit peu, parce que ça évite qu'elle soit tout de suite déportée.
Ça la protège un peu, mais apparemment ce privilège la gênait beaucoup, la mettait mal à l'aise. Elle ne comprenait pas forcément pourquoi elle devait en profiter. Et elle a une telle force face à ce qui arrive, presque un peu stoïcienne d'ailleurs cette force. C'est-à-dire qu'elle dit, à la fin de... Je vais peut-être un peu vite, mais à la fin de son journal, une fois son évolution accomplie, elle dit, en fait, je suis absolument heureuse de vivre. J'aime la vie. J'aime ceux qui sont autour de moi. Tout est bien, tout est absolument en place. Je comprends l'intelligence de la vie et des événements. Si je dois partir, je partirai. Elle est tellement sereine et tellement d'une solidité intérieure imprenable qu'elle dit « je ne suis pas dans les griffes des nazis, j'en ai rien à faire, en fait. » Et qu'importe de leur échapper ou d'y aller, en fait, quand on aime la vie, qu'on a réussi à atteindre ce point d'équilibre ou d'harmonie fou, peut-être qu'on peut partir. Quelque chose a été accompli, qu'elle a su trouver en 29 années, et d'autres mettent toute une vie où n'y arrivent jamais. Elle a atteint ce point à 29 ans, elle peut partir, et donc elle a rejoint d'abord le camp de Westerbork de manière volontaire pour accompagner les autres. Elle a un amour de l'humanité aussi très profond, mais pas niais du tout, je tiens à le dire. C'est pas naïf, c'est pas
cucu.
Niais. Non, absolument pas. Elle aime profondément la vie, l'humain. Elle est très confortable et très tranquille, donc elle y va.
Vous dites, Sophie Galabru, que Etty Ilsoum a accompli ce cheminement en 29 ans, on pourrait même dire en 2 ans, puisqu'elle a commencé son journal en 1941, et on va écouter tout de suite justement un extrait de ce journal, plutôt au début de ce cheminement intérieur.
Vendredi 21 mars 1941, 8h30 du matin. Je dois apprendre à vaincre ce vague sentiment d'angoisse. Certes, la vie est dure, c'est un combat de tous les instants. Allons, n'exagérons rien, ma chérie, mais ce combat m'attire. Avant, je me projetais dans un futur chaotique, car je refusais de vivre l'instant d'après, le futur immédiat. Comme une enfant gâtée, je voulais que tout me fût offert. J'avais parfois la conviction, encore qu'elle fût très vague, de devenir quelqu'un, de faire de grandes choses, alternant avec la crainte chaotique de disparaître sans laisser de traces. Je commence à comprendre pourquoi. Je refusais d'accomplir les tâches qui se présentaient à moi, de m'élever degré par degré vers cet avenir, mais aujourd'hui, où chaque minute est pleine de vie, d'expérience, de lutte, de victoire ou de rechute, suivie d'un retour à la lutte, aujourd'hui je ne pense plus à l'avenir. Il m'est indifférent de faire ou non de grandes choses. parce que j'ai l'intime conviction que de la réussite ou de l'échec, il sortira toujours quelque chose. Avant, je vivais au stade préparatoire. J'avais l'impression que tout ce que je faisais ne comptait pas vraiment, n'était que la préparation à autre chose, à quelque chose de grand, de vrai. Tout cela m'a quittée. Aujourd'hui, à la minute présente, je vis pleinement, la vie vaut d'être vécue. Et si j'apprenais que je dois mourir demain, je dirais « dommage, mais je ne regrette rien ». Je me souviens que j'ai déjà fait cette déclaration, en théorie, un soir d'été où j'étais avec Franz, à la terrasse de Reinders. Mais je le disais plutôt par lassitude. Après tout, si demain c'était la fin, je ne m'en ferais pas trop. Après tout, nous avons eu le temps de nous faire une idée. Nous connaissons cette vie, nous avons tout vécu, même si c'est en esprit, et nous ne nous raccrochons plus à la vie avec le même acharnement. Nous nous sentions très vieux, très sages et très lasses. Aujourd'hui, c'est différent. Et maintenant, au travail.
Voilà un extrait du journal « Une vie bouleversée » d'Etty Hillesum, lu par Apolline Limosino. On l'a entendu au tout début, Sophie Galabru. Cet extrait date du vendredi 21 mars 1941. J'aime beaucoup parce que Etty Hillesum fait figurer même les heures. Donc là, il était 8h30 du matin. C'est vrai que ça donne une telle précision, en fait. On se figure être avec elle. Et ce journal, elle l'a commencé, en fait, le 9 mars, sur la recommandation d'un ami. Donc on est vraiment au tout début, là, de ce qu'elle peut livrer. On est presque vraiment aux prémices de ce cheminement intérieur.
Oui, elle est. Mais c'est en fait ce qui est fascinant dans son écriture, c'est à quel point elle se livre avec sincérité, détail. Parfois, elle assume son narcissisme. Elle peut dire les grandes ambitions qu'elle a, les grandes exigences, et en même temps, elle se reprend. Elle est très drôle aussi parce qu'elle elle s'engueule souvent elle-même parce que elle est.
Là, on l'a entendu. Elle dit allons, n'exagérons rien, ma chérie. Point d'exclamation.
Elle a beaucoup de second degré. Elle se regarde vive, mais c'est pas du narcissisme gluant et qui ne mène à rien. C'est un narcissisme pour progresser, pour se développer, pour être plus grande. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et alors, c'est une perfectionniste. Elle n'est jamais contente, elle n'est jamais satisfaite. Elle veut écrire de grandes œuvres ou être mémorable. Et puis, elle se dit, en fait, apprends déjà à vivre chaque jour, fais des choses minuscules mais intéressantes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'entendre son humilité, en même temps son perfectionnisme et ses exigences, en même temps cette analyse psychologique qui nous aide, c'est-à-dire n'essaye pas de faire de grandes choses, les progrès sont d'abord minuscules pour façonner une vie ou une œuvre. Et puis on entend à la fin, c'est déjà plein de maturité et de libération, ce passage du début de ce journal où elle dit, voilà, bon, je vais peut-être partir, j'ai pas vécu beaucoup, mais en fait, si le but d'une vie, c'est d'arriver à un... c'est d'avoir vu pas mal de choses, d'avoir partagé de l'amour, d'avoir lu, d'avoir vu, d'avoir vu un peu un bout de la vie. Peut-être que c'est pas si grave de partir à 29, 30 ans ou à 80. Quelque part, j'ai déjà mon échantillonnage, j'ai fait le tour et j'ai compris beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça, ça suffit. Je trouve que c'est quand même ce détachement-là. Alors peut-être qu'elle se donne du courage et qu'elle veut se rassurer, mais ce détachement, en fait, il va demeurer, il va se consolider et je le trouve incroyable.
Mais un doute au départ, on peut l'avoir, persiste, même perdure un peu au départ et puis va perdurer, Sophie Galabru, c'est que dans les écritures de soi comme un journal où en plus il a commencé à être écrit sur recommandation parce qu'on imagine que ses amis lui ont dit que ça allait lui faire du bien de se lancer dans l'écriture, elle veut devenir écrivaine, lance-toi, elle est très angoissée donc ça permettra peut-être de l'apaiser, il y aura un effet thérapeutique. On se demande jusqu'où ces premières pages ne sont pas aussi effectivement des encouragements, de l'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'au départ, ce cheminement intérieur, il est presque forcé. On s'est tous dit, face miroir ou en s'endormant le soir ou avec un ami, en ce moment, j'ai changé. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans le texte. Elle dit, avant, j'aurais pu dire ça, la vie peut s'arrêter. Et en fait, je ne le pensais pas réellement. Mais qu'est-ce qui, là, nous prouve dans ce journal au début cette sincérité, vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, malgré tout, on la sent sincère, mais on pourrait se dire aussi que c'est une posture?
C'est vrai, je pense qu'au début, il y a de l'exhortation. Elle cherche à écrire et produire ce qu'elle veut rejoindre, l'état qu'elle veut rejoindre. Et effectivement, à mon avis, quand elle démarre ce journal, c'est non seulement parce qu'elle cherche à écrire et à explorer son talent d'écrivain qu'elle a, c'est aussi parce qu'elle va à mon avis, mal d'un point de vue psychologique, et elle se met à consulter Julius Speer, qui pratique aussi la chirologie, c'est-à-dire l'étude de la personnalité et par les lignes de la main. Il est d'ailleurs consulté par toute l'élite locale, et y compris par des nazis.
D'ailleurs, c'est bizarre, non, ce métier-là, psychologue-chirologue.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il lit dans les lignes de la main et il est, on dirait presque un gourou parfois.
Elle en parle peu de cette pratique-là. Par contre, elle parle de... Il y a aussi une pratique thérapeutique classique, c'est-à-dire verbale. Et il lui donne et lui prodigue un certain nombre de conseils, d'écoute aussi. Et parfois, elle rapporte des propos qu'il a qui sont assez... très profond et très spirituel. On comprend que ça vient de là aussi, son évolution. Et donc je pense qu'en effet, au début de ce journal, elle tâtonne, elle n'est pas forcément très sûre. Ce qui, à mon avis, atteste de sa sincérité, c'est toutes les pages qui suivent où on voit un mouvement un peu en montagne russe, c'est-à-dire que par moments, il y a des montées, il y a des grandes descentes, mais tout est dit sans phare et sans se dissimuler. Et puis peu à peu, ça s'élève, ça monte. Et on sent que si elle avait eu besoin d'admettre, d'avouer qu'elle a peur ou qu'elle va mal, elle l'aurait fait. Donc on se sent...
On sent pas des artifices ou de la...
Non.
C'est pas factice.
Non, il y a un pacte de confiance qui naît très vite avec elle par sa sincérité, sa spontanéité et la grande intelligence de ses propos, le grand souci de clarification qu'elle a pour s'analyser. Et ce qui m'intéresse aussi, et ça m'a inspiré dans mon parcours, c'est qu'elle dit, bon, c'est vrai, je suis un peu une intellectuelle, elle traduit Rilke, hein, elle a un travail de traductrice, elle lit beaucoup.
Elle enseigne le russe.
Elle enseigne, donc elle est à la fois professeure, elle pratique quand même à son époque, c'est assez rare, la psychothérapie, elle est très évoluée, avancée, mais elle dit, bon, je suis une intellectuelle, mais en fait, ça ne vaut rien, les analyses psychologiques et intellectuelles, si il n'y a pas une sorte d'action psychologique sur soi. C'est-à-dire que si on comprend bien des choses, mais qu'on ne fait rien, on peut répéter indéfiniment ses névroses ou ses difficultés ou ses erreurs. À un moment donné, il faut aussi passer à l'action et avoir une forme d'énergie psychologique pour comprendre, mais aussi changer. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'elle n'a pas envie de se complaire uniquement dans ses lectures et ses analyses.
Vous pensez que c'est ça qui peut plaire à ses lecteurs et lectrices, Sophie Galabru? C'est-à-dire cette sincérité sur elle-même, mais aussi cette sincérité qu'elle pousse à avoir chez son lecteur, où elle le met face à lui-même. Par exemple, dans ce texte qu'on a entendu, l'idée qui, moi, me plaît beaucoup, ou en tout cas me parle beaucoup, c'est celle où elle dit « je veux devenir quelqu'un », elle dit « je veux faire de grandes choses, accomplir de grandes choses, faire de grandes choses ». Et finalement, on sent qu'elle est très attachée à son « moi », mais qu'elle va peu à peu aussi questionner cet attachement-là. Qu'est-ce que c'est qu'être soi? Qu'est-ce que c'est que de laisser une trace? Pourquoi on veut laisser une trace? Pourquoi on veut se dire que c'est moi et pas un autre? Ça, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, notamment à notre époque, beaucoup de narcissisme, d'ego, où on doit, où on a cette idée qu'on doit à tout prix devenir ce qu'on est et être soi.
C'est vrai. En fait, elle dit, moi j'ai noté cette phrase, ne rien sacrifier de la réalité extérieure à la vie intérieure. Donc, c'est pas parce que je vis dans une époque effroyable, avec une histoire épouvantable et les rafles et la déportation, que je dois renoncer à ce travail sur moi, à cette connaissance de moi-même, comme disait Socrate, ou à devenir qui je dois devenir, comme dit Nietzsche. Non, je ne dois pas lâcher cette exigence intérieure, mais elle dit aussi, pas plus que l'inverse. Il ne faut pas non plus délaisser l'analyse du dehors, des autres, parce qu'il y a une correspondance entre les deux. Ce qui se passe, elle dit souvent, les défauts que je vois chez les autres, ou ce qui m'insupporte au dehors, c'est parfois ce que j'ai en moi, en réalité. Si je veux bien l'assumer ou l'avouer. Donc elle a une sorte de... Elle est presque... À part son grand amour et sa famille, elle n'est pas forcément hyper affectée par les autres. Elle les regarde, elle les analyse pour voir en quoi ça fait écho à ce qu'elle vit, à ce qu'elle est. Ce qui l'intéresse, c'est le progrès spirituel et psychologique. Donc, regarder les autres, même dans leurs pires détails, ça l'intéresse pour comprendre un peu plus la nature humaine, pour voir en quoi elle aussi a pu passer par des choses parfois obscures. Et à l'inverse, elle a l'impression, alors ça c'est une croyance spirituelle pour le coup, mais elle a l'impression qu'en clarifiant ce qui se passe au-dedans d'elle-même, elle va alors aider les autres. Elle dit souvent cela, et notamment les femmes. On en reparlera peut-être, mais elle a aussi des propos d'une grande beauté pour les femmes sur les rapports hommes-femmes et même féministes avant l'heure, je trouve. Mais quand elle dit, à force de me clarifier, je vais peut-être aider les autres. Et peut-être que ça a un effet, Elle n'a pas tort, d'ailleurs, c'est pas que spirituel. Si chacun faisait ce travail de clarification au-dedans de soi, peut-être que la société, l'histoire irait mieux.
Qu'est-ce que ça voudrait dire, se clarifier soi-même? Cette idée de se connaître soi-même. Si je vous ai posé cette question de la sincérité d'Eti Hilsum, Sophie Galabru, c'est parce que quand on écrit, on ne sait pas jusqu'où le langage, jusqu'où notre propre regard, jusqu'où l'idée d'être publié, en fait, va modifier cette forme de sincérité et donc ce travail sur soi-même. Qu'est-ce que ça voudrait dire de travailler sur soi-même, de ne pas renoncer à cette connaissance de soi?
C'est-à-dire que, pour elle, la vie ne vaut d'être vécue que si elle est comprise, comme disait Socrate. Donc si elle n'est pas capable de comprendre pourquoi elle souffre, pourquoi elle est heureuse, afin de peut-être toujours tendre vers ce bonheur ou ce plaisir d'être et éliminer au maximum la douleur, alors ça ne sert à rien de vivre.
Mais qu'est-ce qui nous garantit, Sophie Galabru, qu'on ne se trompe pas?
Eh bien, le fait qu'elle doute, enfin, je veux dire que, et ça c'est la méthode philosophique par excellence, elle n'est pas sûre de tout ce qu'elle avance, elle tâtonne, elle doute d'elle-même, de ses qualités, de ses compétences, elle se regarde, elle s'évalue, elle se juge, elle se remet en question, et puis petit à petit émerge le sens de sa vie, de la vie en général, sa vérité propre, peu importe qu'elle ait tort ou raison d'ailleurs, et ça vaut pour nous tous. Ce qui compte, c'est d'arriver à se comprendre, à trouver un confort dans la vie, un point d'équilibre. C'est ça, la forme de vérité qui est importante.
Est-ce que vous pensez que Eti Hilsum livre, sans vouloir le faire, une forme de méthode?
Je ne sais pas si on peut parler d'une méthode. Enfin, une méthode, si ça veut dire un chemin. Mais on peut en effet suivre son chemin et l'accomplir pour soi en même temps qu'on la lit, c'est vrai. Mais il n'y a rien de complètement organisé, rationnel. Elle suit quand même, ça suit le cours de ses humeurs, de ses sentiments, parfois de ce qu'elle vit avec les autres. C'est un peu, il n'y a pas de choses qui puissent expliquer pourquoi elle passe d'un point à un autre. Mais elle est très drôle parce qu'elle montre aussi, un peu en manière avant-gardiste, l'influence du psychosomatique. Parfois, c'est j'ai eu un rhume, malade.
Elle parle de ses problèmes intestinaux, elle dit je ne digère rien. Et elle parle de sa vessie en disant ma vessie fait des siennes. Et
elle
on ne comprend pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs.
Elle dit je suis d'une humeur épouvantable parce que je suis malade, ça m'empêche de penser. Ou alors je repars dans une forme d'humeur très sombre et dépressive. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que, vous voyez, c'est là où on a l'épreuve du doute. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça et de voir le monde avec autant de pessimisme et de colère? Ou est-ce que c'est une humeur du moment? Est-ce que c'est pas lié à mon corps qui a des effets sur mon esprit? On va voir.
La clarification, c'est de sans cesse poser des questions sur ce pourquoi je suis comme ça.
Oui, c'est d'abord d'identifier ce qui se passe, de remettre en question la spontanéité peut-être de sa vision et de ce qu'elle pense, surtout quand c'est très négatif et sombre. Mmh. Ça, en fait, elle a, depuis le départ du journal, elle a un but, elle a une sorte de principe, c'est ce qui ne nourrit pas la vitalité n'est peut-être pas valable. Il va falloir questionner cela. Et je la suis complètement là-dessus. Alors là, peut-être on peut dire, c'est cela la méthode ou le principe méthodique. Ce qui ne nourrit pas ma vitalité, mon énergie et mon amour de l'existence doit être questionné. C'est quand même fabuleux de faire ça, alors que le nazisme est en train de vous encercler.
Et ce qu'on entend aussi dans ce texte, quand elle parle de l'avenir, elle dit « Avant, j'étais tournée vers l'avenir à tout prix, le présent n'était qu'une étape préparatoire vers le futur. » Or, elle dit « Maintenant, j'investis ce présent, je veux vivre au présent. » Ça veut dire aussi accepter la mort, c'est-à-dire se dire qu'on ne va pas se projeter parce qu'en fait, il y aura la mort à la fin. Il faut savoir vivre ce que nous apporte la vie à l'instant T. Et ça, on l'entend dans ce texte et on y voit aussi une source de vitalité, c'est-à-dire non pas se disperser dans ce qui n'est pas, mais prendre du temps dans ce qui est déjà.
Oui, c'est vrai. Elle, de même qu'elle avait des idées un peu, des velléités de grandeur, de grands romans, d'œuvres à construire, et qu'elle comprend qu'il va falloir surtout faire des progrès minuscules au jour le jour, elle comprend aussi qu'il ne sert à rien de se projeter dans un avenir lointain, mais d'aimer le présent. Et évidemment, c'est vrai que ça m'a porté et ça fait écho à mon dernier livre. Elle ne veut plus vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Elle veut juste vivre le mieux possible, avec bonheur, en explorant au mieux son intelligence, son cœur, ses sentiments. C'est tout ce qui compte. Et tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre, du moment qu'elle fait cela. En fait, c'est l'inverse. C'est pas « pense à ton dernier instant ou pense à ta mort pour te réveiller et vivre mieux ». C'est soit déjà réveillé, vitale, énergique, puissante, intelligente, amoureuse. Et tout peut s'arrêter, tout aura été fait au mieux.
Samedi 11 juillet 1942, 11h du matin. Déjà, j'exerce mon cœur à accepter l'idée que je poursuivrai mon chemin, même séparé de celui sans qui je crois ne pas pouvoir vivre. À chaque instant, je desserre un peu plus nos liens extérieurs pour me concentrer plus fortement sur une survie intérieure, la persistance d'une union intérieure, malgré la pire des séparations. Pourtant, quand nous marchions main dans la main le long du quai, ce quai qui avait pris hier soir un air d'automne et de tempête, ou que, dans sa petite chambre, ses gestes généreux et doux me réchauffent le cœur, un espoir et un désir tout humain s'emparent de moi. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester ensemble? Plus rien n'aura d'importance si nous restons ensemble. Je ne veux pas le quitter. Mais il m'arrive de penser, il est peut-être plus facile de prier pour quelqu'un de loin que de le voir souffrir à deux pas de chez vous. Dans ce monde saccagé, les chemins les plus courts d'un être à un autre sont des chemins intérieurs. Dans le monde extérieur, on est arrachés l'un à l'autre, et les chemins qui pouvaient vous réunir sont si profondément ensevelis sous les ruines que dans bien des cas, on ne retrouvera jamais la trace. Maintenir le contact, poursuivre une vie à deux, cela ne peut se faire qu'intérieurement. Et ne conserve-t-on pas toujours l'espoir de se retrouver un jour sur cette terre ? Je ne sais évidemment pas comment je réagirai lorsque je serai vraiment placée devant l'obligation de le quitter. Il est toujours là. Et au fond de moi, je ne crois peut-être pas encore vraiment qu'il me faudra me séparer de lui et des autres. Un être humain est peu de choses. Dans cette situation nouvelle, il faudra d'abord réapprendre à se connaître. Beaucoup de gens me reprochent d'être indifférente et passive et prétendent que je m'abandonne sans réagir. Ils disent « Toute personne qui a une chance d'échapper à leurs griffes a le devoir de la tenter. »« Je dois songer à moi-même, » disent-ils. Mais leurs calculs ne tombent pas juste. Chacun, en ce moment, est occupé à songer à soi-même et à tenter de passer à travers les mailles du filet. Or, c'est un nombre élevé, très élevé même, qui doit partir. Et le plus bizarre, c'est que je ne me sens pas sous leurs griffes, que je reste ici ou que je sois déportée. C'est une idée si conventionnelle, si primitive. Ce raisonnement ne me touche plus. Je ne me sens sous les griffes de personne. Je me sens seulement dans les bras de Dieu, pour le dire avec un peu d'emphase.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons aujourd'hui du journal d'Eti Ilsoum en compagnie de vous, Sophie Galabru. On vient d'entendre cet extrait de son journal du 11 juillet 1942, 11h du matin, toujours lu par Apolline Limosino. Et cette phrase à la fin, que je reste ici ou que je sois déportée, je ne me sens sous les griffes de personne. Ça, c'est quand même un des grands moments de ce journal, ou une des grandes lignes de ce journal, c'est qu'on a quand même une jeune femme de 29 ans qui est juive, qui est en Hollande, qui est menacée d'être déportée, qui vit les lois anti-juives, et qui ne se sent pas menacée, et qui même paradoxalement se sent plus libre que à d'autres moments de sa vie.
Absolument, en fait, c'est vraiment le journal d'une libération. Et elle accède à la fin du journal, et on y est hein, dans cet extrait, à une simplicité de sa vie intérieure, à un calme, à une légèreté. Elle se prépare à se séparer de ce Julius Speer, dont elle était très dépendante. Et en fait, on a l'impression qu'elle accepte la mort, et donc elle accepte la vie pleinement. Elle dit à un moment donné, l'éventualité de la mort est intégrée à ma vie. Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de s'élancer dans la vie, parce qu'en fait, elle s'élance aussi dans la foi. On l'entend à la fin de l'extrait, et on en reparlera peut-être, mais elle trouve ce qu'elle appelle Dieu ou la foi ou la spiritualité, qui est en fait d'abord, on pourrait dire, l'amour de la vie et la confiance qu'elle a dans la vie qu'elle a menée et qui reste à découvrir. Et ce qui est très beau dans ce début, moi j'adore la phrase profondément spirituelle, dans ce monde saccagé, les chemins les plus courts d'un être à un autre sont des chemins intérieurs. Alors elle se prépare, elle dit voilà, j'essaye de desserrer les liens extérieurs avec Julius, parce qu'elle sent qu'ils vont se séparer, et d'ailleurs il va mourir avant la veille de sa déportation, ouais. Il va mourir malade, et elle dit mais ce qui demeure vrai, et c'est quelque chose là que je partage, et c'est une thèse que j'avance aussi dans nos dernières fois, il reste le lien spirituel, il y a une dernière fois physique, un adieu aux choses matérielles, au corps de l'autre, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas poursuivre notre relation d'un point de vue spirituel. Alors, soit parce qu'il y a une subsistance de l'âme après la mort, soit en tout cas parce que l'amour que je lui porte, la conversation intérieure et mentale, la mémoire, les rites, et tout ce que nous avons découvert ensemble, cet héritage psychologique, cette aide qu'il m'a apportée, tout cela a eu lieu pour l'éternité et demeure, et donc je vais le retrouver en moi. C'est quelque chose que dit un autre déporté incroyable, qui est le psychiatre Viktor Frankl, qui est le fondateur de la logothérapie, la thérapie par le sens de la vie, qui dit tandis que j'étais déportée, que j'étais forcée dans des travaux épouvantables, je pensais à ma femme, à l'amour profond que j'avais pour elle. J'étais en conversation avec elle en permanence, sans savoir si elle avait été déportée elle-même, si elle était morte, peu importe. Et cela m'aidait, ça me portait. Moi, j'ai retrouvé la même chez ces deux êtres extraordinaires, c'est la force du spirituel. Le lien est indéfectible, même si les corps sont séparés.
C'est un adieu, en fait, au matérialisme et la découverte du spiritualisme, ou de la spiritualité, on pourrait le dire comme ça, ce journal.
Oui, le spiritualisme, c'est l'envers du matérialisme, qui consiste à dire que tout ce qui est matériel. Pour Ilsoum et pour les spiritualistes, il y a autre chose que la matière, il y a des entités immatérielles, il y a l'esprit immatériel ou énergie spirituelle, et c'est ce que l'on ressent par exemple dans l'amour, dans la grâce, dans la joie, dans la légèreté, et c'est tout ça en fait Dieu. Quand elle dit j'ai trouvé Dieu, elle dit une phrase très belle, elle dit il y a beaucoup de croyants qui lèvent les yeux au ciel cherchant Dieu dans les nuages ou à l'extérieur, mais il est en nous, c'est dans ma joie, c'est dans l'amour, c'est dans la confiance que j'ai dans la vie, en moi, dans ma force, que Dieu se trouve. C'est ça, en fait.
Alors, quel est ce Dieu, justement? Parce qu'elle en parle, et là, on retrouve effectivement cette idée de vie intérieure, Sophie Galabru. C'est-à-dire que l'intériorité, c'est là où... En fait, il y a ce paradoxe chez Eti Ilsoum, qui est que plus elle se recueille en elle-même, plus elle se tourne vers son intériorité, plus, en fait, elle s'ouvre au monde, plus, en fait, elle croit en l'humanité, plus elle croit dans les autres, dans l'amour. Alors, quel est ce Dieu? Quelle est cette vie intérieure avec laquelle elle se noue et qui lui permet une telle ouverture? Comment ce recueillement chez elle n'est pas une sorte d'isolement, mais au contraire une telle ouverture? Et pourquoi sous la figure de Dieu?
Elle cherche une puissance invisible qui peut-être est à l'origine de tout ce qui est et de tout ce qui est en train de se faire, qui est à l'origine des sentiments les plus beaux, de l'élévation, qui est à l'origine du sentiment de force et de puissance. Elle cherche un appui, elle cherche une aide, et elle a le pressentiment que nous ne sommes pas seuls, qu'il n'y a pas simplement l'humanité. C'est une intuition, un parti pris qu'elle a, et qu'elle appelle Dieu. C'est ce parti pris qu'elle n'est pas toute seule, et que ce qu'il y a de plus beau en elle provient du spirituel ou de cette énergie divine, et elle le cherche. Elle a beaucoup de doutes, et puis à la fin, dans son émancipation, dans sa libération, elle dit qu'elle trouve Dieu à l'intérieur d'elle-même, dans la paix, la joie, l'amour, dans le beau. Et elle l'avait trouvé d'ailleurs au début aussi dans la responsabilité pour les autres, et ça fait écho aussi bien à Kant qui dit « Dieu, c'est une loi morale entre les êtres » ou à Emmanuel Lévinas qui peut dire « Dieu, c'est ma responsabilité pour l'autre ». C'est un peu pareil chez elle. C'est d'abord le fait d'être soucieux de l'humanité et des autres. Et puis ensuite, ça devient un sentiment. Le sentiment de la grâce, du bonheur, de la force. C'est l'amour de la vie. Moi, en tout cas, je le comprends comme ça.
En tout cas, c'est pas un dieu qui est en lien avec une religion. Ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que elle est juive, et Tilsum, mais elle est coupée quand même du judaïsme. Elle a un grand-père qui est rabbin. Elle s'est intéressée à l'hébreu, mais comme elle s'intéresse aussi aux langues de manière générale, mais elle a pas de croyance, elle a pas de rituel. Donc, on peut presque parler d'une forme de spiritualité ou même de mysticisme sans dieu chez elle. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut parler, c'est-à-dire se demander quelle est cette force qui nous anime ou qui nous donne une raison de vivre, mais qui ne soit pas religieuse, en fait. Un dieu qui ne soit pas religieux.
Oui, c'est vrai, elle est plutôt dans une approche spirituelle que religieuse. Il n'y a absolument pas, enfin, dans ma mémoire, il n'y a pas de marquage ou d'évocation très précise du judaïsme et de ses rituels. Elle n'est pas absolument marquée par cela. En revanche, elle a une approche qui est philosophique et peut-être plus large, qui déborde ce cadre-là. Elle cherche la puissance, la source de la vie et de l'énergie, de la vitalité. Et elle pense aussi qu'en fait, nous sommes peut-être tous et toutes une partie de cette énergie spirituelle ou divine. Nous sommes tous une parcelle du divin. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une correspondance peut-être entre l'extérieur et l'intérieur. Je suis un reflet du reste de l'humanité, peut-être même de Dieu, et vice-versa. Donc, si je ne travaille pas, si je ne me prends pas en charge et que je ne suis pas responsable de moi-même, j'abîme l'idée d'humanité et même de Dieu.
Vous avez cité Emmanuel Lévidas, Sophie Gallabru. On va écouter sa voix, mais juste avant, j'aimerais lire ces quelques lignes qu'Etty Hillesum écrit. Comment se fait-il que ce petit bout de lande enclos de barbelés, traversé de destinées et de souffrances humaines qui viennent s'y échouer en vagues successives, ait laissé dans mes mémoires une image presque suave? Comment se fait-il que mon esprit, loin de s'y assombrir, y ait été comme éclairé et illuminé? J'y ai lu un fragment de ce temps qui ne me paraît pas dépourvu de sens. À ce bureau, au milieu de mes écrivains, de mes poètes et de mes fleurs, j'ai tant aimé la vie. Et là-bas, au milieu de baraques peuplées de gens traqués et persécutés, j'ai trouvé la confirmation de mon amour de cette vie.
Je parle de responsabilité comme de la structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. C'est dans l'éthique entendue comme responsabilité que ce nous, qui serait le nœud même du subjectif. La responsabilité comme responsabilité pour autrui, c'est-à-dire responsabilité pour ce qui n'est pas mon fait, responsabilité pour ce qui ne me regarde pas. Autrui me regarde et dans le sens où j'en suis responsable. J'en suis responsable sans prendre de responsabilité. Sa responsabilité m'incombe. C'est une responsabilité qui va au-delà de ce que je fais. D'habitude, on est responsable de ce qu'on fait. Je suis responsable pour autrui de ce qu'il fait, de ce qui lui arrive. Je suis responsable, je vais très loin, je suis responsable de sa responsabilité même.
C'était le 11 mars 1981 sur France Culture dans l'émission Les Chemins de la Connaissance, la voix du philosophe Emmanuel Lévinas, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Sophie Gallabru, vous avez même fait une thèse sur Emmanuel Lévinas. Il y a des correspondances entre ce philosophe et ce qu'écrit Etty Hillesum assez forte, assez évidente, sans que pourtant Emmanuel Lévinas ne cite Etty Hillesum, on peut le dire.
Non, effectivement, moi j'ai trouvé, pour avoir beaucoup étudié Emmanuel Lévinas, j'ai trouvé qu'il y avait un écho dans les propos d'Etty Hillesum sur, comme dit Lévinas, en fait, se sentir responsable. En fait, il ne prescrit pas la responsabilité, Lévinas, il faut le dire. Il ne dit pas « soyez responsable ».
On peut le vivre comme ça, quand on l'entend de cette manière dans cette archive.
C'est pour ça
soyez responsable d'autrui.
Oui, c'est pas du tout cela. Il a l'impression de décrire ce qu'il se passe à un niveau très profond. C'est-à-dire que le sujet est replié sur lui-même. Il cherche à trouver sa place au soleil, à vivre, à se construire, à s'édifier, et puis à un moment donné il rencontre l'autre, et cette rencontre se joue hors de tout rapport commercial ou utilitariste. Il est débordé par cette rencontre, il s'aperçoit que l'autre est vulnérable, mystérieux, exposé à la mort, à la maladie, fragile. Et ça lui inspire un sentiment de... Il se sent interpellé, dérangé dans cet égocentrisme. Il ne peut pas se contenter de sa petite place au soleil. Et surtout que chercher sa place au soleil, parfois, ça conduit à écraser les autres. Et donc, par cette interpellation, il va se sentir responsable, un peu malgré lui. Comme lorsqu'on voit quelqu'un qui, je sais pas, va mendier dans le métro, vous regardez. Et d'ailleurs, souvent, on fuit le visage, puisque c'est le terme consacré par Lévinas pour parler de cette rencontre et de cette interpellation. On fuit le visage parce que précisément ce visage exprime toute cette demande qu'on ne veut pas voir parfois, puis parfois on cède, on y va, on se laisse embarquer jusqu'au sacrifice, dit Lévinas. Et c'est ce que va faire d'ailleurs Hetty. Elle va s'embarquer jusqu'au sacrifice pour aider les autres. Et c'est pas un choix pour avoir une belle image de soi, pour la gloire. Non, non, c'est un mouvement, une embardée, un peu folle. Comme dit Lévinas, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Elle se l'est peut-être dit.
Elle dit que c'est l'antichambre de l'enfer, par exemple, quand elle travaille dans le camp de transit de Westerbork, où elle a d'abord travaillé au Conseil juif, mais après, quand elle a été dans ce camp, en fait, elle a travaillé d'une certaine manière. Elle a accueilli, parce que là-bas, les juifs travaillaient, en fait. Gérer le camp, et elle a vraiment pris presque à cœur, elle voulait être le cœur pensant de cette baraque, comme elle dit. Le cœur battant, non, je crois, de cette baraque. Le cœur pensant de cette baraque.
Elle voulait, à mon avis, en y allant, être un cheval de Troie ou faire ce qu'elle pouvait du mieux possible pour essayer d'amortir le choc, la violence. Et c'est vrai qu'on peut chacun être un agent de la douceur, on peut à son niveau résister à des ordres injustes, à de la violence, à de la cruauté, en allant même au cœur de l'enfer. C'est ce qu'elle fait. Alors, à ses dépens, et comme dit Lévinas, ce n'est pas de gaieté de cœur, on n'y va pas, c'est pas la responsabilité joyeuse, c'est même, dit Lévinas, désirer l'indésirable. Donc c'est absolument pas une vision naïve de cette responsabilité, mais elle est malgré soi. Elle s'impose malgré soi. Comme d'autres, parfois, ont sauvé des juifs, des résistants, les ont cachés, aidés. C'est des gens qui ont fait ça. C'était pas réfléchi, c'était un sentiment d'urgence qu'il fallait le faire, et même au risque de se sacrifier. Ce qui est très lévinassien chez Ilsoum, c'est... alors, elle a son narcissisme, et comme tout le monde, mais elle est toujours traversée par l'exigence, l'humilité, la culpabilité de ne pas assez avancer, de ne pas assez en faire, les remords aussi, et ça c'est très lévinassien, parce que la philosophie lévinassienne, c'est une philosophie un peu infernale, avec où on est hanté, traversé par les remords de ne jamais faire assez, parce qu'en fait, dès lors que l'on veut être juste, dit Lévinas, plus je suis juste, plus je suis coupable, plus je prends conscience de ce qu'il faudrait faire pour l'humanité et l'autre, plus je m'embarque dans un cercle infini, une dette sans fin, et plus je me sens coupable.
Mais Hetty Ilsoum, même si elle est traversée par cette culpabilité, ces remords, ces regrets, comme vous dites, Sophie Galabru, elle a aussi, et on l'a entendu dans l'extrait que j'ai lu, elle a quand même cet amour infini pour la vie. C'est-à-dire que c'est pas une culpabilité, c'est pas une morale doloriste.
Non, absolument pas. Elle est juste consciencieuse, exigeante, noble, mais elle n'est absolument pas à se mortifier, à s'empêcher de vivre. Elle ne vit pas dans un ascétisme, une mortification et la mauvaise conscience permanente non plus. Ce sont des passages...
Alors que pour Lévinas, on a l'impression, tel que vous le décrivez, que quand même, son éthique est radicale, parce que il y a quand même, c'est soit en fait on est dans l'égocentrisme total et on s'en fiche de l'autre, soit en fait on est embarqué malgré soi pour quelque chose de l'ordre du don total, de la générosité, qui en fait nous rend quand même malgré tout coupable. On a l'impression que les deux ne donnent pas envie quand même.
En fait, Lévinas dit, au début de son œuvre, il montre à quel point il est très important d'être centré, narcissique, de se remplir, de se nourrir du monde pour exister, pour être quelqu'un, pour vraiment prendre sa place. C'est très important d'être bien gonflé, parce qu'ensuite, il montre la portée de la rencontre éthique et de l'interpellation. Quelqu'un qui ne serait pas centré sur lui, qui ne serait pas content de vivre et heureux de lui-même, ne serait pas quelqu'un de profondément éthique. Il faut, en fait, se trouver, avoir envie de s'arracher le pain à la bouche, comme il dit, de la bouche. Mmh. C'est-à-dire, il faut que j'ai envie de me goinfrer du monde et de me combler pour comprendre à quel point le geste de vouloir tout à coup m'interrompre pour donner à l'autre est fort. Si de toute façon, je ne me considère pas, je n'ai pas l'impression d'exister et je veux simplement me sacrifier pour l'autre, c'est peut-être moins vertueux, moins incroyable que celui qui s'est bien auto-satisfait de lui-même et de la vie et qui va tout d'un coup arrêter ce mouvement pour l'autre.
C'est ce qu'on trouve en fait chez Tilsum, avec quand même cette idée, je le disais, Sophie Galabru, d'être beaucoup plus sereine d'une certaine manière, c'est-à-dire non pas rongée par la culpabilité, mais vraiment en fait, il y a cette notion qu'on a évoquée, mais vraiment elle passe, c'est Tilsum, d'être centrée sur elle-même, sur ses relations amoureuses. Elle parle beaucoup de sexualité, de possession, et là on passe à un amour où elle s'oublie et où elle est complètement, entièrement donnée aux autres, c'est-à-dire où les liens ne sont pas seulement tangible, mais son intérieur, comme elle le disait, et où en fait ce n'est même plus des personnes en particulier, c'est vraiment l'amour de l'humanité. Il y a une redéfinition de l'amour avec Tilsum. En tout cas, elle vit cette redéfinition-là.
C'est vrai qu'il y a un cheminement entre l'érotisme et le charnel, une pensée très charnelle et érotique.
C'est très cru même, on est même étonné de lire ça sous sa plume, une jeune fille de 28 ans, à la fin, au début des années 40, avec une telle liberté érotique.
Absolument, et elle va peu à peu, je dirais pas, non, c'est pas se désincarner du tout, mais elle va peu à peu rejoindre une conception de l'amour plus spirituelle. Peut-être forcée par les événements et la séparation avec Julius, mais je pense, il y a aussi le fait que son amour avec cet homme est contrarié. Il ne veut pas commettre l'adultère et tromper sa femme, donc c'est un amour qui ne peut être que spirituel. Et donc peut-être que elle est un peu contrainte de comprendre cette dimension et d'y aller plus vite que si cet amour avait pu se matérialiser, s'incarner. Mais c'est vrai que sa conception de l'amour va changer. Et elle dit aussi souvent, avec un ton assez féministe, c'est incroyable, mais je suis en fait une très grande dépendante affective, je ne pense qu'à lui, je me laisse parfois décentrer par cet homme et cet amour. Elle est dans l'obsession et elle essaye d'apprendre une forme de détachement. Elle dit souvent, nous les femmes, nous avons tendance à vouloir nous éterniser dans un homme. Et on ne se prend pas en main. Donc, en fait, elle essaye d'apprendre à ne pas absolument désirer et s'abandonner dans cet homme. Elle essaye de conquérir son indépendance, de se prendre en main, d'avoir conscience qu'elle a un destin à elle et qui n'est pas forcément relié ou étayé sur celui de cet homme. Et elle a des propos qui encouragent les femmes à certes aimer, mais ne pas se laisser uniquement absorber, décentrer par cet amour pour un homme, et d'exister aussi pour elle-même. Ça, c'est quand même très avant-gardiste, très beau.
I used to love it when roses would come. The card always read, you're my number one. But love never goes the way one supposes, and I will forever hate roses. You sent me roses, I thought it was nice. Open it read goodbye.
Cette chanson, Sophie Galabru, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie et qui continue d'ailleurs à la transformer, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous comprenez pas ou que vous comprenez très bien mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
J'ai choisi le Tractatus Logicus.
Logico-philosophicus. Déjà, même le titre
même
vous
le
résiste.
Titre me résiste, de Wittgenstein, qui en fait, bon, exprime aussi pour moi toute la philosophie analytique qui me résiste absolument depuis très longtemps et toujours encore aujourd'hui. Parce que, bon, évidemment, moi je viens d'une tradition qui est la philosophie phénoménologique et continentale, qui est un peu à l'opposé, même si certains essayent parfois des réconciliations. La philosophie analytique m'échappe parce que c'est une philosophie qui veut donc clarifier, qui a un souci, ce qui est important, un souci de clarification.
Surtout après tout ce qu'on a dit sur Ethylsum, qui ne cherche que la clarification.
Mais un souci de clarification très, très formel, porté sur le langage, le rapport du langage au monde, et qui parfois décortique de manière si chirurgicale, si froide, rigoureuse et logique les mots, et notre rapport à eux et au monde et à soi, que moi je me perds ou je m'ennuie.
Et alors, en ce qui concerne ce que vous avez parlé de Lévinas, Sophie Galabru, vous avez fait, je l'ai dit, une thèse sur lui. On a parlé d'Ethylsum pendant 50 minutes. Parfois, il y a des choses, Ethylsum, ça ne vaut pas pour elle, mais pour Lévinas, par exemple. C'est un auteur extrêmement difficile.
C'est
vrai.
Peut-être
aride, la phénoménologie. C'est pas non plus. On a l'impression qu'on est dans le concret, que voilà, qu'on va tout le temps avoir Merleau-Ponty qui nous parle de Cézanne, mais ça n'est pas le cas.
Non, c'est pas toujours le cas. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est en fait aucune philosophie n'est meilleure qu'une autre, mais chacun son langage. Moi, c'est juste que j'ai trouvé le mien de manière, c'est vrai, bizarrement, de manière évidente, facile et aisée avec Emmanuel Lévinas, qui pour d'autres est difficile, voire illisible. Mais et ça ne s'explique pas en fait. C'est lié à des choses, des affects, une histoire, un rapport aux mots. Et donc, pour moi, ça convenait, mais je comprends tout à fait que ça puisse être difficile. Après, on est là aussi pour essayer de transmettre, clarifier. Mmh. Moi, je n'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui m'ait introduit et fait aimer la philosophie analytique. Je le regrette, peut-être
oui,
que ça viendra.
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une question, justement, de transmission ou même presque de formatage? C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu comme vous sur la philosophie analytique, Sophie Galabru. C'est pas ce qui me parle le plus. Je me suis demandé si, voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de continental, quoi.
En fait, bon, après, c'est vrai que j'ai une résistance, une résistance un peu orgueilleuse à la philosophie analytique, parce que j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que la philosophie analytique a une prétention très haute à être plus logique que les autres.
Il y a une forme de snobisme.
De snobisme qui, moi, ne me dit rien, parce que je m'en fiche qu'elle soit plus logique que les autres. Je n'attends pas du tout cela des penseurs et des philosophes, donc c'est vrai que ça passe à côté de moi. Et je cherche peut-être pas à me réconcilier non plus.
Justement, c'est intéressant ce que vous disiez, Sophie Galabru, sur la langue, parce que là, Ethylsum, on l'a dit, mais on peut quand même le redire, c'est que la spécificité de la philosophie analytique, c'est de tout le temps interroger le langage. Donc, on en vient presque même à se dire parfois, est-ce que je parle de manière juste? Est-ce que je suis en train de mettre les bons mots? Alors, quand on parle d'Ethylsum, on ne va pas s'embarrasser de questionnements permanents sur la manière dont on parle. Justement, il faut parler pour questionner la manière dont on parle, mais sans s'empêcher de parler.
Oui,
c'est pas paralysant.
En fait, il y a deux choses pour moi. C'est en tant que phénoménologue, j'ai envie de dire, moi, j'aime l'ambiguïté des mots et j'aime qu'il y a un excès mystérieux qui nous déborde quand on lit quelqu'un, que ce soit un littéraire ou un philosophe. Moi, j'aime être débordée. J'ai pas envie qu'on me clarifie tout. Et la deuxième chose, c'est pour ce qui est de la sincérité, ce qui compte, c'est pas forcément la clarté des mots, de leur organisation. Et là-dessus, je suis spiritualiste, comme un Bergson. C'est l'intuition qu'on a de son rapport à soi et à l'extérieur. Et tant qu'on a cette énergie de chercher le sens de la vie, de ce qui se passe, et qu'on a l'impression de saisir des choses avec son intuition, il faut les dire et on verra bien.
Merci beaucoup Sophie Galabru.
Merci à vous.
De vous on peut lire Nos dernières fois, Défier la nostalgie, c'est paru aux éditions Alary, Faire famille, et paru aussi en poche. Et lisez Une vie bouleversée d'Ethylsum, c'est disponible aux éditions Point. Et un grand merci à Apolline Limosino qui a préparé l'émission et lu magnifiquement les textes d'Eti Ilsoum, à Nicolas Berger à la réalisation, à Alex Dang à la prise de son. Ces émissions sont disponibles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.